Françoise Trossard et la belle équipe pour la récré littéraire de France Culture. À l'affiche, un joli dimanche et droit de réponse. Et puis, les gonfleurs de texte avec Dominique Muller, Jacques Jouet et Serge Joncourt pour le décor.
Disons que le peu de fréquentation de la bibliothèque François Mitterrand a donné une idée. Et puis le péril qu'il y a à l'approcher de réserver l'accès exclusivement aux nudistes. Je trouve que c'est une idée intéressante.
Oui, non, certes.
On pourrait me réconcilier avec cet endroit.
Et donc, Mademoiselle Duparc, elle est toute nue, mais avec un chapeau.
Oui.
Ensuite, l'inventaire de nos petits moments de lâcheté. Une classe de rhétorique, le petit rimailleur fou comme le monde de Lucas Fournier et des mots pour le dire avec Patrice Delbourg, Jean-Bernard Pouy et Violaine Schwartz pour pilocracer.
Pilocracer, c'est prendre un arbre dans ses bras et poser la tête sur son écorce dans l'espoir de récupérer force et énergie à son contact.
Mais vous n'avez jamais fait ça,
jamais.
Là, les arbres vous aussi donnent une énergie.
Ah non, ça alors, rien qu'y penser, ça me donne envie d'avoir un malaise.
On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Et pour le rattrapage, direction franceculture.fr après l'émission. Le téléchargement ou podcast, c'est pendant un an. La réécoute durant 1000 jours. Merci de votre fidélité au Papou du dimanche. Bienvenue à ceux qui nous découvrent. Et pour la saison 2014, un rituel, se lancer avec un joli dimanche. Hommage à ce jour papou qui nous réunit un joli dimanche, imaginé par Dominique Muller, façon Corneille pour le Cid, avec un petit rôle pour Serge Joncourt. Dominique.
Orage, au désespoir, au dimanche au jardin, n'ai-je donc tant biné que pour un tour de rein ? Et n'aurais-je couvert Don Gomez de fumier que pour le voir gagner au concours de rosier ? Mon bras qu'avec respect regardait ce novice, mon bras qu'il saluait timide myosotis, mon bras qui tant de fois a planté mes pervenches, me trahit et me fait jardinier de dimanche. Ô cruel souvenir d'une main verte en berne, faut-il voir triompher cette vieille baderne ? Non, contre l'offenseur, le père de Chimène, je vais lancer mon fils, je le vois qui s'amène. Rodrigue, as-tu du beurre ?
Oui, mais que faut-il en faire ?
Graisser de Don Gomez tous les outils de fer, les doigts glissants qu'enfin ce hardi flanche, qu'on sache qu'il jardine comme un maudit manche.
Quand les héros sont fatigués, quand ils n'en peuvent plus de dire, à longueur de page, les mêmes répliques, d'aimer la même personne, de trahir, parfois de souffrir, de se jeter sous un train toujours le même, ou de prendre gentiment leur poison à la fin du roman, comme c'est écrit dans l'histoire, alors les héros, lassés de leur rôle, crient au secours. Et à qui demander du secours, sinon à l'auteur de leur jour ? Ne pourrait-il pas par hasard changer un peu le cours de cette histoire pour la rendre plus excitante ? Eh bien, au Papou, nous offrons aux personnages de fiction un droit de réponse pour se défendre contre la monotonie de leur jour. Non, les héros ne baissent pas les bras. Un exemple avec Lucas Fournier. Il nous apporte un document ô combien intéressant. Quelle chance nous avons, Lucas ?
Oui, c'est un document que m'a confié Patrick Beignet.
Ah, certainement authentique.
Oui, justement.
Oui, oui. Évidemment, manuscrit.
Manuscrit qui est signé Christian.
Ah oui ? Non, non, mais on pense à quelque chose, mais on peut se tromper, Christian, évidemment.
Il n'y a pas beaucoup de Christian.
Non, il n'y a pas beaucoup de Christian justement. Dans la littérature. Non. Donc Christian dans Cyrano de Bergerac.
Évidemment, oui.
Voilà.
En fait, il savait parler.
En effet.
Pas forcément, il écrivait, c'est Lucas
il écrivait,
qui va
il
parler.
Il écrivait, je ne vous le fais pas dire, justement. Merci de l'avoir noté le premier. Et donc, il écrit à Edmond Rostand.
Oui.
Au grand Edmond Rostand, noble auteur dramatique, vertigineux faiseur de vers prolifiques, je m'appelle Christian, amoureux de Roxane et je passe à jamais pour le dernier des ânes. Je suis beau mais très con et la femme qui m'aime sans le savoir adore un autre que moi-même. Sans dire un mot, je meurs avant le dernier acte et pas un spectateur ne connaît l'heure exacte où je quitte la scène. Nul ne sait mes répliques puisque je suis idiot pour l'opinion publique. Et pourtant, moi aussi, je peux jouer des quatrains, éclatant et clinquant en pur alexandrin. Je ne conteste pas le sort qui m'est laissé et vous prie qu'un seul souhait vous puissiez exaucer. Je voudrais, moi aussi, ma tirade du nez.
Ah oui, mais il n'a pas le sens de l'orthographe quand même.
Hein. Il fait des liaisons dangereuses.
Oui, liaisons dangereuses, mais...
ou pour être précis, tirade du Bénin.
Du Bénin.
Du oui. Bénin, oui, du Bénin, puisque je suis ébo et sot en même temps. Je l'ai cette tirade et la dit à l'instant.
Oui, décidément.
À vous de la glisser dans votre œuvre, Rostand. Tirade du Bénin par Christian Neuvillette pour l'acte 2 de Cyrano en Odelette. Je suis donc sot. C'est un peu court au Cyrano. Et je connais, messieurs, bien que pas très finaux, 20 façons différentes d'habiller ma bêtise. Par exemple ceci. Provençal. Oh, peu cher, c'est le plus grand couillon entre Nîmes et Beaucaire. Anatomique. Il a dans ses bras deux mains gauches. Médical. On dirait du cerveau une ébauche. D'après notre IRM, il est mononeurone. Royaliste. Pour lui, il n'y a que le trône de roi des imbéciles où il pourrait régner et son plafond déjà se remplit d'araignées. Littéraire. Il eût fait avec Dostoïevski le modèle idéal d'un idiot exquis. Gastronome. À souper, ce qu'il mange est du foin. Municipal. Il n'est pas besoin d'aller loin, voici tout simplement notre idiot du village. Pédagogue. Oh, ces traits, oh, ce charmant visage. C'est un cancre. Arrivé jusque à l'âge adulte. Curieux. Christian, qu'est-ce un nom? Une insulte? Une appellation d'origine? Qu'on garantit? Douteux. Ballot? Bêta? Cornichon? Abruti? Prévenant. Avec lui, ayez de l'indulgence. Pneumologue. Il respire. Mais pas l'intelligence. Cruciverbiste. On dit qu'il lui manque une case. Montagnard. On atteint les sommets chez les nazes, car ce crétin des Alpes est un Himalaya. People. Il a, dit-on, encore moins que Zaya de cervelle au milieu de son crâne. Aquatique. Est-il cruche? Est-il sot? Non. C'est une barrique. Équestre. On peut aussi le tourner en bourrique. Pédicure. Il est comme ses pieds, bête, hableur. Il ne reconnaît pas une ânesse en chaleur. Malheureux, il est plus con qu'un âne. Charcutier, c'est la plus belle andouille dans tout notre quartier. Ecclésiastique, enfin, il est émancipé, stupide, agité, c'est un béné dissipé. Rostand, vous avez là ce qu'il manque à mon rôle. C'est brillant, enlevé, cyranesque, mais drôle. Et je veux que demain, vous mettiez dans ma bouche sur scène ces beaux vers pour que Christian nous touche.
Oh, mais quelle injustice vis-à-vis de ce personnage, parce qu'il a du potentiel, non?
En plus, c'est tout préparé, c'est très facile pour l'auteur.
C'est un très beau cadeau qu'il lui fait, oui.
C'est pas souvent que les personnages écrivent leur propre rôle.
Hervé Letellier, je sais qu'Edmond Rostand, vous aimez.
Oui,
vous
beaucoup.
Adorez. Oui.
Oui, beaucoup.
Vous adorez surtout la tirade du nez. Alors, vous, en tant qu'Hervé, vous avez probablement un point de vue sur cet écrit de Christian.
On comprend pourquoi il aime la tirade du nez, d'ailleurs.
Oui. Toute allusion physique des papous serait purement fortuite. Donc là, vous êtes dans la peau d'Edmond Rostand qui reçoit cette tirade de Christian qui est, de ma foi, une excellente suggestion.
Oui, mais en fait,
pièce.
Je suis pas tout à fait Edmond Rostand. Je suis un deuxième personnage de Cyrano de Bergerac.
Vous avez intercepté la lettre, c'est
ça. Et voilà, et j'envoie une deuxième lettre parallèle, puisque je connais très bien l'existence de cette lettre.
Et vous envoyez une deuxième lettre à Edmond Rostand,
bien
vous
entendu.
Aussi. Ah, très bien. Et alors, vous lui dites quoi?
Cher Edmond, cher ami, cher auteur dramatique, la lettre de Christian pourrait être comique si elle était de lui, hélas, elle est de moi. Il s'est mis à pleurer, n'étant pas de bois, j'ai cru bon d'accepter d'être son interprète pour une fois de plus, soutenir sa requête. Le garçon est idiot, je ne le nierai pas, vous qui l'avez créé connaissez bien son cas, je le trouve touchant, j'ai cédé à ses vœux, il voudrait tellement être un peu moins neuneux. Moi, je ne souhaite pas qu'on touche à votre pièce, sauf à ce que vous fassiez Roxane, ma maîtresse. Car, pour parler freudien, c'est une fixation et coucher avec elle éteindrait ma passion. Cela pourrait d'ailleurs bien éveiller la sienne. J'ai quelques arguments, mais en parler me gêne. Si vous vous rappelez la tirade du nez, elle peut, à autre chose, être bien adaptée. Bref, cela donnerait une toute autre histoire. Oh, pas si différente, tout juste un peu plus noire. Permettez donc ici, je résume l'action et vous propose une ou deux modifications. Roxane est amoureuse, mais cette fois de moi. Elle est jolie, mais sotte, et c'est moi qui suis là. J'utilise Christian pour m'en débarrasser. Il est beau, séduisant, mais bête à en pleurer.
Je cache à ce Bénet que je suis son amant et je lui dicte mots et messages charmants. Roxane, bien étonnée, découvre son sourire. Souvent la femme cède à l'amour qu'elle inspire. Je la vois s'éloigner et je feins la tristesse, bien que fort soulagée, pure délicatesse. La pièce bouge un peu, vous le voyez, Rostand. Mon personnage gagne un côté plus méchant. Voilà, j'en ai fini. Donc, je récapitule. Vous me livrez Roxane, quant à moi, je... Brisons-la. Recevez mon amitié, votre personnage, Cyrano.
C'est magnifique, magnifique.
C'est bien une idée intéressante en plus.
Mais apparemment, étant donné qu'on connaît la pièce telle qu'elle est...
Il n'en a pas fait, rien fait.
Rostand n'a pas tenu compte de ces deux courriers
oui,
du tout.
C'est lamentable.
C'est une troisième
lettre. À quoi ça sert d'écrire à des auteurs pour ne rien obtenir du tout?
Alors, comme ça, la femme cède à l'amour qu'elle inspire.
C'est, une c'est un verbe magnifique.
Oui, oui vraiment. Oui.
Et on apprend beaucoup quand même.
Souvent,
au papouin.
La femme cède à l'amour qu'elle inspire.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule. C'était si bien. Tout ça m'affecte. Ça, c'est correct. Au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur. Là, y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute. Là, y'en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins. N'en prends pas deux, ça te calmera et tu verras, tour ton ballot. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Serge Gainsbourg, à quoi tu penses, Eva ?
Je pense que mon chiffre de chance, le 333, multiplié par 2, fait 666 moins 6 égale 660 divisé par 11. 60 puis encore divisé par 2 égale 30.
Ah.
Ce qui signifie que le 30-11, nous fêtons nos 30 ans à 11 heures. Et j'étais claire.
Mais tout à fait, Eva. Dimanche 30 novembre, les Papous fêtent leurs 30 ans en public au studio 104 de la Maison de la Radio. 30 ans de récréation des Papous dans la tête sur France Culture. Et vous êtes tous nos invités pour la récré du matin de 11h à 13h avec un invité surprise. Et pour la récré ou pour la récré, vous avez le choix, vous venez aux deux ou pas, ou pour la récré de l'après-midi de 15h à 17h. Tous les papous seront là pour jouer en prose, en rime, en chanson, pour faire la fête, vous faire sourire, de la bonne humeur pour un dimanche d'automne. Au piano, Gabrielle Godard et avec elle ses copines qui chanteront un peu de Charles Trenet. À l'heure du déjeuner, une rencontre dédicace autour de nos trois livres collectifs, l'anthologie, le dictionnaire et les 36 facéties des Papous dans la tête. Et puis, à 17h, Ricardo Mosner, qui aura passé sa journée à peindre en public la toile des 30 ans, accompagné en musique par Pablo Gignoli et Sébastien Volco. Ricardo Mosner nous rejoindra sur scène et en toute folie découpera sa toile grand format en 30 petits tableaux, l'eau d'une tombola gratuite pour les spectateurs du Studio 104. C'est la fête, c'est dimanche 30 novembre, vous êtes tous nos invités pour les 30 ans des Papous dans la tête. attention, sur réservation, sur le site maisondelaradio.fr, en minuscule tout attaché, maisondelaradio.fr. On en reparlera. Place aux gonfleurs de textes. Ce sont des écrivains audacieux, joueurs avant tout. On leur offre une petite phrase et ils bâtissent un roman, mais sans toucher au cadre. Ils doivent respecter le premier et le dernier mot de la phrase et s'infiltrer entre les autres pour la nourrir de l'intérieur, la dilater avec à chaque tour un projet romanesque. On ne gonfle pas pour gonfler, on gonfle pour enrichir une histoire. Et ils sont trois à gonfler l'un après l'autre pour l'exercice du jour. Dominique Muller, vous voulez bien jouer avec nous ?
Mais très volontiers.
Et vous acceptez Serge Joncourt, Jacques Jouet, Patrick Beignet comme suiveurs ?
Je les supplie de...
Oh, oui. C'est un honneur quand même de jouer, de passer derrière Dominique Muller, non Serge ?
Oui, de passer derrière, oui. Tout à fait. Autant passer devant serait malvenu.
Je dis ça avant même qu'on ait découvert la phrase en jeu.
Alors, oui, vous vous
c'est
mouillez
dire,
un
c'est
peu.
Dire que je vous fais confiance, oui, Dominique. Oui. On écoute la phrase du début.
Il me prenait dans ses bras, enlevait mon pyjama avec des gestes précautionneux, le jetait en boule par terre.
Voilà. Alors, je suis tombée sur cette phrase et je me suis dit, tiens, ça pourrait être le début d'une histoire follement érotique qu'on écrirait au papou.
Oui.
Hein, c'est devenu une histoire érotique.
Mais pas du tout, malheureusement. Un petit peu, quand même. Si, un petit peu.
C'est une phrase de qui ?
Oula, qui est-ce qui jette des pyjamas en boule par terre ?
Oh, bah alors. Relisez cette phrase.
Il me prenait dans ses bras, enlevait mon pyjama avec des gestes précautionneux, le jetait en boule par terre.
C'est Cocteau, c'est une phrase de Cocteau.
Non, c'est une phrase de femme.
Vous êtes sûre ?
Oui. Oui, je suis sûre, c'est pas du Cocteau.
Voyons.
Non, c'est du François Sagan.
J'avais songé.
Moi aussi.
Vous avez songé en l'entendant ?
Oui, oui.
Ah oui ? Oui, moi je trouve, hein, il y a son mouvement.
Si qui pouvait porter des pyjamas, oui, que quelqu'un enroulerait en boule, je me suis dit.
Oui.
François Sagan, il s'est dit.
Tristesse du pyjama.
C'est beaucoup mieux que la version chemise de nuit, c'est ce que vous voulez dire. Donc Dominique Muller, vous êtes parti vers l'érotisme ou pas ? J'ai cru comprendre que non.
Au contraire. Je trouvais ça très érotique et une personne comme moi ne peut pas tolérer ce genre de choses.
Ah bon ?
Il me prenait des envies furieuses de le renvoyer. Quand, une pile de livres dans ses bras, il me regardait comme s'il enlevait mon pyjama.
Ah !
Je suis bibliothécaire, monsieur l'inspecteur, et bien sûr, je ne vais jamais travailler dévêtu. Mais je me méfiais, parce qu'avec des gestes précautionneux, il subtilisait le chapeau de mademoiselle Duparc et le jetait en boule par terre.
Le chapeau ?
Oui.
Ah oui, c'est un feutre, alors là, oui. Oui, c'est terrible ce qui lui arrive au feutre. Bon, alors, effectivement, on n'est plus du tout ni dans une chambre à coucher, ni...
Dans une bibliothèque,
ni
en fait.
Ni dans un dortoir, on est dans une bibliothèque.
Avec Dominique une personne méfiante.
Escamoter l'idée de nudité. Serge Joncourt, vous lisez le texte de Dominique et il y a quand même une piste policière, puisqu'il y a un inspecteur.
Ah oui. Oui, mais moi je les vois pas, les inspecteurs. Je les vois jamais. Et quand ils sont là, je feins de ne pas les avoir remarqués.
Ah bon, donc vous ne partez pas vers le polar ?
Pas vraiment.
Vers quoi ?
Vers la bibliothèque, enfin, on essaie d'y arriver en tout cas.
Oui, mais quel genre de roman dans une bibliothèque ?
Eh bien, vers un roman de bibliothèque. Ouais, je veux dire. Il nous prenait des envies furieuses de le renvoyer en Amazonie, ce foutu bois qui nous servait de carrelage.
Ah bon ?
Surtout que, quand une pile de livres dans ses bras, monsieur le directeur de la bibliothèque dérapait sur le conifère traître imbibé d'eau de pluie, et qu'une fois à terre, il me regardait comme s'il enlevait mon pyjama. Oui, je suis bibliothécaire, monsieur l'inspecteur. Et bien sûr, à cause du plancher extérieur en sapin et ses abondantes précipitations, je ne vais jamais travailler dévêtu. Car, quand on tombe, les vêtements ont ce moindre mérite de nous protéger.
C'est pas faux. Ah,
d'accord,
elle est maline. Hein.
Ça, c'est pratique. Hein. Mais pourtant, depuis que la bibliothèque François Mitterrand est réservée aux nudistes, je me méfiais de ce textile, entre guillemets,
oui,
qui voulait lire Toussade, parce qu'avec ses gestes précautionneux, il subtilisait le chapeau de mademoiselle Duparc et le jetait en boule par terre.
C'est-à-dire qu'ils sont tous nus, sauf un type, quoi. Effectivement, on appelle ça des textiles, oui.
Disons que le peu de fréquentation de la bibliothèque François Mitterrand a donné une idée, et puis le péril qu'il y a à l'approcher, de réserver l'accès exclusivement aux nudistes. Je trouve que c'est une idée intéressante.
Oui, non, certes.
On pourrait me réconcilier avec cet endroit.
Et donc, Mademoiselle du Parc, elle est toute nue, mais avec un chapeau.
Oui.
Ah oui, c'est très élégant.
Bah, c'est autorisé. Hein.
Ah oui, oui, bien sûr.
C'est très chic, même. Oui, oui. Très, très joli. Bon, c'est une histoire. Hein. Elle est escalée, Jacques Jouet.
Mais oui, on n'est pas obligé d'en tenir compte.
Si, justement.
Non, moi, j'ai tenu compte des mots, mais pas forcément de l'histoire.
Non.
Un petit peu.
Un petit peu, quand même. Il y avait une jolie situation. Si on enlève un petit peu les
ah,
phrases...
C'est très visuel. On voit bien la scène hein, sur le, le parvis de la bibliothèque. Là,
oui, absolument. Avec le bois, les gens qui glissent quand il y a de la neige.
Oui,
on ne connaît pas la saison avec vous, Serge.
Il pleut abondamment.
Oui. C'est plutôt l'automne.
C'est l'automne. On glisse tout le temps là-dessus.
L'automne avancé.
Oui.
Décembre.
Et est-ce que vous avez eu envie de faire jouer un rôle un peu particulier à l'inspecteur?
Oui, bien sûr.
Ah, on va savoir.
Il a repêché l'inspecteur.
Le dénouement.
Ils nous prenaient tous des envies furieuses de la démonter entièrement, cette bibliothèque. De la déconstruire, comme Derrida le fait d'un conte de Perrault. De le renvoyer en Amazonie, ce foutu bois qui nous brisait l'école des fémurs. Quand on tombait littéralement sur un confrère, c'était lui qui nous servait de carrelage. On comptait les points, les chutes, on était au spectacle. Surtout quand, une pile de livres du XVIe siècle dans les bras, la secrétaire de monsieur le directeur de la bibliothèque dérapait sur le conifère traité, imbibé de larmes et d'eau de pluie, et une fois à terre, la tendre peau émaillée de bleu, sans parler de ceux du cou qu'elle avait à l'âme, me regardait déconfite, avec le même désespoir que papa, comme s'il était maman quand elle enlevait mon pyjama le matin 10 années durant, après que j'avais encore une fois fait pipi au lit. Oui. Je suis aide bibliothécaire, monsieur l'inspecteur général de la fonction publique. Mais je ne suis pas titulaire. Je profite de votre venue pour vous déclarer que c'est un scandale. Et bien sûr, à cause du plancher extérieur en bois d'Amazonie, de celui intérieur en sapin du Nord, et de ces abondantes précipitations à la fois du ciel et des touristes, je ne vais jamais travailler en pyjama. Ni en jupe d'ailleurs, ni en jean, c'est interdit. J'y vais entièrement dévêtu, comme tout le monde qui tient à sa garde-robe. Car quand on tombe, ces non-vêtements ont au moins le mérite de ne pas s'abîmer, à défaut de nous protéger un tant soit peu. Mais pourtant, depuis que, à la bibliothèque François Mitterrand, les embauches sont, ceci explique cela, exclusivement réservées aux nudistes, il est trop dire que je me méfiais de ce textile, mon chef de bureau qui voulait lire Toussade, et aussi parce que, sans vouloir cafeter, car je n'aime pas les cafeteurs, parce que, avec des gestes qu'il croyait précautionneux, il prétendait couvrir le bas-ventre de monsieur le directeur et que pour ce faire, il subtilisait le chapeau de pluie de madame Duparc et cela fait, battait le directeur comme plâtre et dans l'horrible intention de prendre sa place, le jeter en boule par terre.
Oh là là, le directeur carrément.
Oui.
Ah oui, 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 oui.
C'est violent.
Moi, je trouve qu'on a une vraie histoire, hein. Un des beaux personnages.
À plusieurs, même.
Plus, ils sont tout nus, quoi, on voit la photo.
Ah, ça fait l'image.
Ils sont dans la bibliothèque, en train de glisser partout.
Oui, il en manque que des petits patins. On peut réécouter la phrase de départ de Françoise Sagan dans Un certain sourire.
Il me prenait dans ses bras, enlevait mon pyjama avec des gestes précautionneux, le jetait en boule par terre.
Ah, évidemment, c'était une histoire d'amour. C'est différent. Il y a la violence de la bibliothèque François Mitterrand.
La violence de Jacques Jouet, surtout.
Surtout, oui, oui, oui. Donc, Patrick Bénier, vous n'aviez pas connaissance du début, ni de ce qu'avait fait Dominique, ni de ce qu'avait fait Serge, mais vous aviez Jacques Jouet en main.
J'étais directement à la violence.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez?
Non, ce qui m'a effrayé, c'est l'état de cette bibliothèque. Je ne sais pas en quelle année ça se passe.
Ah, pas de
mais on y voit des choses. Alors, il y a ces personnages qui se promènent les bras pleins de livres du XVIe siècle, mais c'est à l'extérieur.
Oui, bien sûr,
sous la pluie. Sous la pluie, en glissant.
Donc
oui.
Ça, c'est plutôt dégradé par rapport...
C'est dégradant.
Parce qu'aujourd'hui, Dieu sait que tout va de travers, mais pour l'instant, les sols intérieurs ne sont pas inondés, du moins quotidiennement. Et on ne peut pas sortir les livres.
Qui a une idée de titre pour ce roman? Oui, Jacques Bertrand.
Moi, j'avais pensé plutôt à un titre du genre « Les incunables sont-ils imperméables ?»
Oui, ou « Les incunables ne sont pas convenables », des choses. Ils sont tous tout nus, là, quand même, aussi.
Oui, finalement, c'est une histoire qui est riche de possibilités de titres. Hein. Une idée.
Le parapluie des incunables.
Oh, ça, c'est beau. Et ça ressemble à un titre de Jacques Bertrand, oui, le parapluie du samouraï. Et oui. Ah oui, oui, oui. On prend.
Très bien.
On prend.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le panneau gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Et c'est Zaz qui le chante, Paris sera toujours Paris.
Des papous dans la tête, vous les écoutez sur France Culture.
Oui.
Et c'est le temps des inventaires aux papous. Je, tu, il ou elle catalogue, classe, se souvient. Tous les sujets sont possibles, des objets inutiles aux pères et mères de substitution dont on rêve, des lieux insituables sur une carte aux petits moments de lâcheté. Et oui, c'est le sujet du jour. Le petit moment de lâcheté, ce temps légèrement suspendu où l'on ne dit ni ne fait ce qu'il faudrait pour être fier de soi. Résultat, on se sent minable. Ce qui console, c'est que ça arrive à tout le monde. L'inventaire de nos petits moments de lâcheté par Odile Conseil, Pascal Fioretto, Patrice Delbourg et vous, Lucas Fournier.
J'ai participé souvent à des réunions de parents d'élèves où un professeur dévoué et accablé demande, sans trop y croire, y a-t-il des parents volontaires pour accompagner les enfants à une sortie piscine le samedi matin ou pour la visite de la classe au musée Pierre-Albert Biraud ou pour l'animation du stand des crêpes à la kermesse de l'école ou pour aider la classe à déménager du premier au septième étage, il n'y a pas d'ascenseur. Et à chaque fois, mon regard a fui comme les autres.
Ça, c'est terrible. Là, je vais voir votre regard fuir parce que les papous vont bientôt changer de bureau, figurez-vous. Nous allons passer du 9e étage au 8e, je crois bien. Et alors, j'ai des bandes magnétiques des papous depuis 1984 qui me regardent encore droit dans les yeux.
Je crois bien que je suis pris ce week-end.
Moi, je dois déménager une classe.
Je le savais, je le savais. Pascal Fioretto, un petit moment de lâcheté, c'est pas votre genre. Enfin, si, à l'instant avec moi, mais autrement.
Ça m'arrive quand même. Là,
ah oui.
Je vous ai retranscrit une conversation téléphonique récente. Allô, monsieur Foretti? Fioretto. Excusez-moi, monsieur Fioretto. Je me plaisante. Guylaine Sanchez de Cuisinella. Écoutez, je vous arrête tout de suite. Je suis en liste rouge, je suis au travail et je ne devrais pas recevoir votre appel. Tout à fait. Alors, je vous appelle monsieur Fioretto parce que nous organisons une vente coup de fusil dans notre grand showroom de Grany-en-Brie le week-end prochain. Et vous avez été sélectionné pour gagner une hotte aspirante à flux laminaire avec lampe d'appoint. Qu'en pensez-vous venir, monsieur Fioretti? Écoutez, il n'y a pas de madame Fioretto, je n'ai pas besoin de cuisine, ni de fenêtre en alu, ni de chaudière à condensation, ni de conseiller bleu ciel d'EDF, ni de thermicien Dolce Vita, ni de pompe à chaleur, ni de crédit revolving. Très bien, monsieur Fioretti. Dans ce cas, puis-je vous proposer une autre date pour rencontrer à domicile l'un de nos cuisinistes conseils sans aucun frais de déplacement ni de main-d'œuvre de votre part? Écoutez, je suis humaniste et donc je sais que vous êtes précaire, exploité et que je dois être aimable avec vous. Mais je vous jure que je n'ai absolument pas besoin de cuisine ni de rien d'autre. Très bien, monsieur Fioretto. Excusez-moi un instant. Alors, que diriez-vous du 17 à 18 heures? Entendu, j'y serai. On l'a tous vécu, je crois.
Ouais, ouais, c'est un classique. Odile conseille un de vos petits moments de lâcheté.
J'ai 15 ans. J'envoie à mon amoureux du moment une lettre dans laquelle je glisse ces vers accommodés à ma façon. Mon ami, mon cœur songe à la douceur d'aller vivre là-bas ensemble. Il me répond une lettre enflammée. Il est ébloui, dit-il, par les vers que j'ai composés pour lui. Je ne l'ai pas détrompé.
Non, mais là, c'est pardonnable. Lucas.
Lors du match France-Irlande de rugby, je me suis livré à une double lâcheté, assez ignoble. Invité par des Irlandais et installé au milieu des Irlandais au Stade de France, j'ai donc supporté l'équipe d'Irlande, ce qui est lâche mais prudent. L'Irlande a gagné. À la fin, une dame, une Française, m'a interpellé. « Vous êtes Français ?»« Oui. »« Alors pourquoi vous avez supporté l'Irlande ?»« Alors vous êtes d'Aqua ?» Je ne vois pas le lien entre la sympathique ville de Dax et le fait de trahir son équipe nationale. Mais bon, j'ai compris que c'était ma planche de salut et j'ai dit lâchement « oui ». Et elle a dit « ah d'accord ».
Voir la note en bas de page pour l'explication.
Ah, je ne l'ai toujours pas. Hein.
Eh oui, Pascal.
Alors il faut que je vous dise que notre résidence vient de s'équiper d'un nouveau bac à déchets. C'est un bac à couvercle marron, car c'est un bac à compost.
Ah oui.
Bon, alors a priori, je suis plutôt pour, mais depuis son installation, je passe beaucoup de temps à me demander si tel ou tel déchet peut se décomposer, si tel autre devrait être mis à la poubelle ou est incinéré, en lointaine banlieue si possible, évidemment. Et l'autre jour, je me suis retrouvé au troisième sous-sol, devant un voisin qui a vidé devant moi sa poubelle en vrac, dans le tout nouveau bac à compost, en me regardant avec un air de défi, comme si c'était de ma faute, si elle était pleine de boîtes de pizza et de canettes de soda. Sa poubelle à lui, bien entendu.
Ah oui.
Alors, qu'auriez-vous fait à ma place ?
Rien.
Pas, ah bah, on serait parti.
Moi, je lui ai tenu la porte du local, la poubelle.
Trop gentil, Pascal.
C'est vrai qu'il est trop gentil. Oui, ouais. Il m'étonne d'ailleurs.
Ouais.
Chez le garagiste, porte de Gentilly.
Ouais.
J'arrête mon automobile, vaguement inquiet. Il y a un bruit bizarre, monsieur, dans mon moteur, là. Oh, c'est une question de Delco, de Villebrequin, de Cardan, voire l'isothermie des couples radiants, rien de grave. Ouvrez le capot, je vous prie. C'est que là, la petite manette à droite du siège.
Oui,
mais là, ah, vous êtes empoté, vous. Question mécanique. Vous n'avez pas le pouce opposable aux autres doigts ou quoi? C'est-à-dire, cette voiture, vous voyez, on me la prête pour le week-end, alors je ne connais pas toutes les...
Moi, je dis à peu près la même chose. Je dis, on me l'a donné il y a très peu de temps. Mais je ne sais pas non plus ouvrir le capot, ce qui est très ennuyeux.
Très embêtant.
Odile.
J'ai 16 ans.
Oui.
J'envoie à mon amoureux du moment, à ce moment-là, mon amoureux s'appelle Sacha, une lettre dans laquelle je glisse ses vers, accommodés à ma façon. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, je suis tombée dedans. Depuis, j'y nage éperdument. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Les yeux de Sacha, les yeux de Sacha, les yeux de Sacha. Il me répond une lettre enflammée. Il est ébloui, dit-il, par les vers que j'ai composés pour lui. Je n'ai pas détrompé.
On vous retrouve au tour suivant. Vous aurez 17 ans.
Je grandis.
Lucas.
J'ai la lâcheté de toujours finir mon assiette quand je suis invité, même si je déteste le plat.
Ça s'appelle de la politesse, non ?
Non, c'est de la lâcheté. Sauf une fois, on m'avait servi des escargots et j'en ai horreur. Je me suis donc escrimé non pas à tenter de les extraire de leur coquille, mais tout au contraire à les repousser très soigneusement tout au fond, de sorte que les coquilles semblent vides. Et j'étais assez heureux du résultat. Personne ne s'est aperçu de rien, même pas le maître de maison, qui ayant constaté que j'en avais fini avec ma douzaine, m'a aussitôt resservi.
Le pauvre. Il dit le conseil retour à la poésie.
Oui, bah oui, j'ai 17 ans. Et j'envoie,
parier, hein.
J'envoie à mon amoureux d'alors une lettre dans laquelle j'écris que demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
oui,
je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Alors dans sa réponse, Victor, c'est mon amoureux d'alors, me demande pourquoi je ne prends pas plutôt le train, mais trouve que les mots qu'il m'a inspirés sont très beaux. Je ne l'ai pas détrompé.
Et cependant, tous les ans, vous changez d'amoureux. Alors vraiment, je ne comprends pas. Parce qu'ils sont très indulgents.
Ça dure, vous savez ce que durent les roses.
Patrice.
Été 2003. Lac de Vassivière, dans la Creuse. Je suis sur le bac qui mène à l'île aux statues. C'est une île où il y a des mobiles d'avant-garde au centre du lac, comme ça. Un enfant turbulent
qui m'avait déjà passablement chauffé les oreilles depuis le départ du bac, échappe à l'eau sa nouvelle paire de lunettes de vue, reçue pour son anniversaire.
Aïe, aïe, aïe.
Il pleure toutes les larmes de son corps, il trépigne. La mère, en chignon, me regarde d'un air implorant. Je mets discrètement un doigt dans l'eau. Non, non, je ne plongerai pas.
Oh.
L'enfant est moche, la mère aussi. Oh. Et puis je suis un très très mauvais nageur. Je feins de m'absorber dans une grille de sudoku de type terrifique.
Ah non, mais là, vous avez été minable. Hein. Pardonnez-moi de vous le dire, mais...
C'est ça, la lâcheté, l'été.
C'est très, très moche, là. On retrouve Odile Conseil à 18 ans ou on fait un bond dans le temps?
On fait un petit bond dans le temps. J'ai une fille de 3 ans, ma fille, qui me dit « Maman, tu es la plus belle du monde.
Oh. »
Je ne l'ai pas détrompée.
Non, mais... Odile a la lâcheté de fuir ce jeu, évidemment.
Bon. Ben, c'est sa plus grande lâcheté.
Oui, mais laissez-la moi pour la dire en dernier, s'il vous plaît.
Pascal.
Alors moi, l'autre jour, on a sonné à l'interphone. Eh bien, c'était mon neveu.
Mon neveu
que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Mm-hmm. Quand j'ai ouvert, je me suis retrouvé face à une forme humaine longiligne. Et la faible lumière qui tombait du plafonnier basse consommation de la résidence éclairait à peine ses fringues noires, ses cheveux rouges, son teint verdâtre et ses lèvres charbonneuses. Il souriait, mais il avait l'air d'avoir deux de tension. « Tu veux un verre d'eau sucrée ?» lui ai-je proposé. Il m'a fait non de la tête en remuant ses bagues tête de mort, ses pendentifs en dents et ses boucles d'oreilles en os de Godzilla. « Qu'est-ce que tu viens faire à Paris, au fait, Thomas ?» ai-je demandé. « Je vais à une soirée gothique aux catacombes. Tu veux venir ?» C'est vraiment marrant et original comme soirée. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la fête ensemble, toi et moi. Fallait-il créer du lien intergénérationnel ? L'accompagner ou rester tranquille chez moi à regarder Silence sa pousse ? J'ai été lâche. Je l'ai laissé repartir tout seul.
Oh là là ! Vous n'y seriez pas allé non plus, Patrice Delbourg. Non, vous êtes un frileux un peu.
Ah, puis je suis un pignouf surtout.
Oui, c'est vrai. Où dit le conseil ?
Ma fille a 4 ans. Elle me dit, maman... Tu es la plus formidable du monde. Je viens lui faire du jambon puré. Et je ne l'ai pas détrempé.
Les cas.
Des gendarmes m'arrêtent à Massiac, près de Saint-Flour, dans le Massif central. Vous allez où, monsieur ? À Paris. Donc, vous passez par Moulins, n'est-ce pas ? En fait, non, parce que l'autoroute ne passe pas par Moulins. Moulins, c'est la nationale, les radars, les camions. Bien sûr, lâchement, je dis oui, parce que je sentais qu'un nom l'aurait contrarié, le gendarme auvergnat. Alors très bien, dans ces conditions, vous accompagnerez mon collègue jusqu'à son unité à Moulins. Mon trajet a été rallongé de plus de 2 heures. Dans la voiture, le gendarme s'est endormi à la sortie de Saint-Flour jusqu'à l'entrée à Moulins. Ce n'étaient pas les Moulins de mon cœur.
Patrice ?
Je dîne seul, comme souvent dans un restaurant assez chic du carreau du Temple. Le maître d'hôtel est patibulaire, le service est désagréable. Je suis mal assis, le côte du rôt n'est pas folichon, le riz de veau trop cuit. On me déplace pendant le repas, l'addition arrive, une erreur de 30 euros en ma faveur.
Wow.
Que croyez-vous que je fis ? J'acquittai la douloureuse sans moufter et laissai royalement un demi-euro de pourboire. Oh.
Séance d'initiation à l'art de la prise de parole en public avec Ricardo Mosner et Jean-Bernard Pouy. Même si le public est restreint, même si le message à délivrer est bref, encore faut-il avoir l'énergie et la force de conviction nécessaires à ce qu'il soit reçu. Ricardo Mosner et Jean-Bernard Pouy s'entraînent à rédiger des allocutions pour toutes les circonstances de la vie. Et c'est dans un lieu très particulier que Ricardo Mosner prend la parole.
Bonjour, je suis le représentant de la SDD du DUMU, Société de défense des utilisateurs du mobilier urbain. Comme chacun sait, les cabines téléphoniques de notre chère ville Lumière sont en train de disparaître. C'est ainsi que le mobilier urbain le plus poétique et utile de Paris, ces parallélépipèdes de célestielle transparence et majestueuse beautés stylistiques sont vouées à la destruction la plus cruelle, décrétée par des dispositions bureaucratiques, imposées par des ignorants de la réalité et du lyrisme d'une ville avec une vie qui leur échappe. Je sais, l'arrivée et l'utilisation massive des portables, ainsi que l'accessibilité pécuniaire, même pour les plus pouilleux de nos concitoyens, de ces fabuleux appareils de communication, font que. Je n'ai rien contre les progrès, au contraire. Bref, oui, avec l'arrivée du téléphone mobile, on pourrait penser que c'est normal de faire passer des vies à trépas les cabines téléphoniques. Mais non, non et non. Ce sera à oublier que ces cabines ont une autre vie, d'autres utilisations. Et puisqu'elles sont là, les quelques-unes qui restent, préservons-les comme des animaux en voie d'extinction et comme traces de mémoire. Pas seulement, mais surtout, par l'utilisation de ces espaces publics par nos chers voyageurs sans le sou, poètes de l'imprévu, de la désolation, tombés dans l'oubli de nos sociétés mercantiles. Savez-vous qu'à l'angle du carrefour Pathé-Tolbiac, la cabine racée, pas plus tard qu'aujourd'hui, abritait une famille d'artistes qui, réchauffés par l'alcool des rues, avaient décoré ce réceptacle par des collages d'une superbe force créatrice. Des photos et des graffitis de ce lieu seront publiés avec mes textes dans les prochains bulletins de la SDD du DUMU. Et la cabine disparue au 48 de la rue Traversière, où logeaient 18 contorsionnistes de diverses nationalités et couleurs. Leurs acrobaties autour des lieux égayaient cette rue, aujourd'hui triste à mourir et vidée de sens. Des photos et des documents de ces lieux seront publiés avec mes textes dans les prochains bulletins de la SDD du DUMU. Sans vous parler des 14 cabines de la rue du Départ, où les cracheurs de feu et collectionneurs de chiens rangeaient leurs affaires. Les cabines de la rue du Débarcadère, avec leur chaman éclairage à la bougie et leurs nuages de fumée hilarantes. Celles de la rue Diderot, transformées en dépôt de livres usagés, une véritable bibliothèque d'Alexandrie. Et celle de l'astrologue Toto, rue Docteur Pierre Brousse. Puis celle des trois frères Aloïs, aux trois rues des trois frères, etc., etc. Tous ces troubadours des temps modernes, aujourd'hui délogés. Des photos et des témoignages de ces lieux seront publiés avec mes textes dans les prochains bulletins de la SDDD. Arrêtons ces massacres. Sauvegardons ces cabines comme des espaces de création urbaine pour nos poètes des rues. Longue vie à nos cabines survivantes. Des photos concernant cette historique réunion et les textes intégrales de ces discours seront publiés dans les prochains bulletins de la SDD du DUMU. Pour toute donation, contactez Ricard Cabine, angle de la rue du Refuge et de la rue Alexandre Bell. 01 45 86 16 70, sonnez deux fois court et une fois longue. Longue vie à nos cabines téléphoniques.
Oui, oui.
Se lève dans la salle.
Oui, oui, oui.
Un monsieur se lève aussi. Vous êtes qui ?
Oui, je voudrais m'exprimer. Je suis un réparateur de France Télécom.
Ah oui ?
C'est important quand même.
Eh oui, évidemment.
Alors, tout le monde ne me connaît pas à l'SDD du MU.
Oui.
Alors que moi, par force, je connais tout le monde. Je m'appelle Mustapha Belkaïd, dit aussi le Kabyle téléphonique, unique et dernier réparateur de ces édicules que vous aimez bien. Aussi, je voudrais préciser mes quelques griefs. Avant, mon boulot était tranquille. Un fil qui s'était coupé, une pièce qui s'était coincée, un microphone qui avait disparu. Simple, rapide. Trop simple, trop rapide. Mais à présent, avec tous ces artistes conceptuels qui utilisent les cabines à des fins pas toujours avouables, il y a même des cabines d'essayage et des cabines de déshabillage, mon travail est devenu dantesque, c'est-à-dire infernal. Il faut d'abord nettoyer, enlever la peinture, décaper les vitres, décoller les affiches, aérer, déménager les livres, transporter les sculptures et les meubles, et souvent les canapés coincés de force dans les cabines. Entasser presque tout ce matériel et ce travail pour lequel je n'ai pas vraiment été formé. Je ne regrette rien, gardant quand même quelques objets utiles que je peux envoyer ensuite au bled. Mais j'ai une requête, j'aimerais bien être sur quelques photos des 374 numéros du bulletin que notre ami ici présent nous concocte. Je le mérite bien. J'aimerais aussi une photo de la cabine qui est Place Beaumarchais et qui est en fait le studio où je loge depuis 10 ans et que j'ai décoré avec le bon goût berbère traditionnel. Merci encore pour avoir entendu ma demande respectueuse. Et pour récupérer toutes les cartes bleues bloquées dans la machine, venez me voir avec, bien sûr, une pièce d'identité. Je vous salue tous bien bas, Mustapha.
Bah oui, bravo, oui, oui, bravo. Bravo, 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 bravo. Non mais il a raison, il a une petite demande à faire. Oui. Donc Ricardo Moster, vous qui êtes le président de la SDD du MU.
Bah on vous a bien entendu, Kabyle téléphonique, on vous appelle demain même.
Les papousses dans la tête sur France Culture.
Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, le petit Riemayer et des mots nouveaux pour le dire, les mots de Patrice Delbourg pour Violaine Schwartz et Jean-Bernard Puy. Tout de suite, place au petit Riemayer, notre dico en vers de la langue où chaque définition se rédige sous forme de poème. En alexandrin, en décasyllabe, en octo, le choix en est laissé au rédacteur de l'article, surveillé de près par un contrôleur, armé d'un dictionnaire de référence pour épingler un oubli éventuel. Le rédacteur peut ainsi se laisser aller à une douce rêverie sur le mot imposé. Lucas Fournier, vous êtes le rédacteur du jour et je vous ai imposé de traiter le mot « monde ».
C'est un mot magnifique.
Absolument, mais oui, je suis très consciente du fait que je vous ai fait un beau cadeau. Alors, c'est un mot, Patrice Comon, qui a un très long traitement dans le dictionnaire, n'est-ce pas ?
Oui, une bonne page.
Voilà, et c'est vous qui êtes au contrôle de Lucas Fournier. Il se présente comment, le monde ?
Alors, le monde, je le chanterai du mieux que je pourrai, parce que ça mérite plus qu'une chanson, un hymne.
Ah.
Voilà. Donc, c'est une forme d'hymne sur l'air de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf.
D'accord, et vous le chantez direct, non ?
Il vaut mieux le chanter directement.
Je me demande,
oui. Oui, je crois, moi, je crois.
Parce que vous aurez la flamme, vous aurez l'envie. L'hymne à l'amour, donc, le monde.
Le ciel bleu et toute l'immensité, et la terre, la nature, les cités, peu importe le Larousse, tout ça c'est le monde entier.
On est avec vous, Lucas. Oui, c'est beau.
Tous auditeurs. Les hommes à leur premier matin, et la foule. Et les Américains, peu importe ces secousses, ce bas monde est à nous tous.
Moi j'adore quand il fait la petite voix parce qu'on a l'impression qu'il est enfant de cœur, qu'il est à l'église et qu'il chante. C'est le petit Lucas enfant qu'on entend.
Ah oui, c'est beau.
C'est
beau,
j'en pleure. Moi j'en pleure.
J'ai pas fini du tout.
J'ai pas fini.
Il a usé trois curés à la Malou.
La suite, Lucas.
Je dirai tout du mot monde, je le chanterai sur les ondes, puisque vous le demandez.
Ah oui, oui, oui.
Je n'en ferai pas tout un monde, à peine quelques secondes, puisque vous le demandez. J'irai parcourir le monde, je fréquenterai le beau monde, puisque vous le demandez. Je vais versifier ce mot en cinq lettres et trémolo, puisque vous le demandez. Si un jour il faut quitter le nôtre, si on meurt pour aller vers un autre, on se dit que c'est dommage de louper la fin du monde. Nous irons trouver un nouveau monde. Si ça se trouve, il n'y aura pas grand monde et surtout pas de lecteurs du monde. On verra en haut des nuages celui qui a fait le monde.
Oh, bravo. C'est bien. Bravo. C'est très intéressant, parce que vous redonnez une autre valeur aux notes. Oui. Et puis, vous êtes quand même capable d'aller du très grave au très aigu.
C'est trop grave ou trop aigu. D'ailleurs, puis là, jusque-là.
Un violaine, vous qui chantez, vous qui êtes musicienne.
Ouais, chant de poule.
C'est dire. Moi, je dis, c'est différent, mais...
Mais c'est un autre monde, vous m'aviez
demandé. Exactement. Alors, du coup, je ne sais pas si on a accordé assez d'importance aux mots.
On n'a pas accordé grand-chose.
Mais je pense que c'était quand même assez fourni, Patrice, comment vous qui avez été captivé par le dictionnaire pendant qu'on écoutait.
Non seulement c'était fourni, mais c'était Fournier. Et donc, non, c'est parfait. Il y a trois sens à monde, et les trois sens y étaient. Alors après, toutes les petites variantes.
Oui.
Et je rappellerai simplement cette très jolie citation de Musset ou était-ce de Marivaux ? Je ne me rappelle plus très bien. Je suis venu trop tard dans un monde trop, trop vieux. Vieux.
Mm-hmm. En conclusion, on fait rentrer le monde de Lucas Fournier dans notre petit Rémailleur illustré. Tout le monde est d'accord ? On met aux voix ? Oui.
Ah, on pourrait même peut-être le mettre aux voix, petit chanteur à la croix de bois. On pourrait le faire rentrer dans le répertoire des petits chanteurs.
À quoi tu penses, Jacques ?
Les papous ont 30 ans et je ne laisserai dire à personne que ce n'est pas le plus bel âge de la vie.
Bah oui, c'est vrai, Jacques, c'est le plus bel âge de la vie. Les 30 ans des papous dans la tête, en public, au studio 104 de la Maison de la Radio. C'est le dimanche 30 novembre que nous les fêterons en deux récrés, de 11h à 13h et de 15h à 17h. Tous les renseignements sur l'agenda de France Culture, à la vie du club des papous dans la tête et sur notre page Facebook pour les réservations maisondelaradio.fr. En minuscule, tout attaché, le site maisondelaradio.fr. Dimanche 30 novembre, on vous attend. Dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête. Des mots nouveaux pour le dire, des mots chocs, pas des mots valises. Des mots évocateurs pour éviter de dire des choses en deux lignes. Alors je vous donne un exemple. Le verbe fourmailler. Fourmailler, ça signifie passer un week-end à Limoges sans prononcer une seule fois le mot porcelaine. Ou bien un autre, froutzinguer, que l'on doit à une collaboration entre Jacques Vallée et Patrick Beignet, et qui voudrait dire froncer les sourcils en descendant une rue en pente à Brest, comme si on avait lu trop de Pierre-Jacques Elias. Ça, c'est froutzinguer, c'est joli, non ? Une nouvelle série de mots nouveaux proposés aujourd'hui par Patrice Delbourg et qui seront soumis, ainsi que le court récit imaginé par Patrice avec ses mots, qui seront soumis pour traduction à Violaine Schwartz et Jean-Bernard Puy. Patrice Delbourg, on découvre vos mots inventés.
Il y a 6 mots, 3 substantifs et 3 verbes.
C'est bien ça. Ouais. Parce que les verbes, ça sert à la fois à dire une action, mais aussi un état, un sentiment. Donc c'est bien d'avoir des verbes qui raccourcissent le langage.
Oui, qui sont moteurs, j'espère. Exactement. Qui font avancer une proposition. Oui. Alors, par exemple, vous avez le verbe du premier groupe, espougner.
Espougner.
Oui.
Au futur, ça donne...
Tu espougneras.
Oui, AS classique.
Nous espougnerons. Oui, 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 oui.
Une question, Eva, vous qui maîtrisez très, très bien les conjugaisons, ça va ?
Oui, j'ai l'impression d'avoir toujours conjugué ça. Oui.
C'est un verbe du sud, des Alpes-Maritimes.
Je ne sais pas.
Espougner, arrête de m'espougner.
Oui, c'est vrai que ça sent plus Pagnol que Gelderode, oui. Mais bon.
Mais en l'occurrence, ça a quand même été inventé par un pur Parisien qui est Patrice Delbourg. Alors ensuite...
Le verbe tarpentir. Tarpentir qui est évidemment du deuxième groupe,
oui.
Comme le verbe courir.
Oui, tarpentir, vous l'écrivez P-E-N.
P-E-N, comme la pente.
Oui.
Tar, comme tarte ta gueule à la récré. Pente, comme pente, pantogramme. Et tir, comme tir à la carabine.
D'accord.
Voilà.
Oui. Extrêmement bien équilibré.
Oui, moi je trouve aussi que graphiquement, il est assez costaud. Quand même.
C'est presque un mot valise, hein, ça.
Non,
pas loin, sans poignet.
Non, non, c'est une création. Non, non, c'est pas un mot qui est décalqué d'un idiome ou d'un dialecte. Hein.
Non, c'est une création delbourgeoise.
Delbourgeoise, enfin, oui, delbourgeoise.
Franc-delbourgeoise.
Franc-delbourgeoise.
Après, troisième mot.
Le verbe pilocrasser.
Ah, pilocrasser avec deux S.
Oui, deux S, mais un seul L, s'il vous plaît. Sinon, ça serait pillocrassé,
évidemment.
Ce qui n'aurait rien à voir.
Évidemment.
C'est tout de suite bien écrit.
Oui.
Premier groupe régulier.
Premier groupe régulier, comme amusé.
D'accord.
Et alors, je pilocrasse du pilocrasse.
Oui, après
mais ils sont transitifs ou intransitifs, ces verbes ?
Transitif.
Transitif,
transitif
tous,
s'il vous plaît. Oui. Espougner fut intransitif, mais avec le temps, il est devenu uniquement transitif.
Ah.
D'autres questions ?
Non, ça va.
Non, mais celle-là était particulièrement pertinente.
Alors après, nous avons 3 substantifs.
Oui.
Une stoufle.
Oh, ça sent la recette belge.
Une stoufle, donc, c'est un nom féminin.
Oui.
Alors, dans certaines régions,
ce qui est très rare chez les substantifs, le pluriel est marqué. On dit des stoufles. Mm-hmm.
Ah.
Mais c'est pas très fréquent.
D'accord.
Moi, je préférais dire une stoufle, des stoufles.
Oui. Bah, c'est vous qui créez, vous avez tous les droits. Hein.
Mais je réponds par avance à quelques courriers qu'on pourrait avoir.
Oui.
J'en peux dire, il y a des sous, j'ai entendu stoufles.
Dans l'est de la France, on dit pas les stoufles.
C'est une sorte de caramel.
Avant 40, oui. Oui, le fameux stoufle.
Un autre substantif.
Un nom commun masculin. Le Valbruse. Avec un Z.
Et un E à la fin ou pas?
Et un E, bien sûr. Mm-hmm. C'est pas comme Vaduz, hein, c'est comme Abruze plutôt. Mais
ça
sans S.
Ça fait un peu alcool fort, je trouve, ça, non? Hein, vous trouvez pas Jean-Bernard Pouy? Non.
Non.
Vous boiriez pas un petit Valbruse?
Avec deux Z, oui, mais avec un seul nom.
Un Valbruse. Et pour terminer, donc un dernier nom commun, masculin, un Juchillon.
Un
Juchillon.
Juchillon.
Ça sent sa Bourgogne.
Ça commence comme juché, ça se termine comme roupillon.
Ah, oui. Ouais, c'est un très joli mot, Juchillon. Et vous avez raison, Eva, tous les mots de Patrice Delbourg balancent bien. C'est des trois syllabes en général.
Ça balance à Paris. Je vous les répète si vous voulez.
S'il vous plaît.
Espounier, tarpentir, pilocracé, une stoufle, un Valbruse et un Juchillon.
Magnifique. Alors ces mots, bah, vous les avez inventés, oui. Vous les avez créés, donc oui. Vous avez eu envie de jouer avec, d'écrire un texte qui comporterait ces mots, sorte de raccourci du langage.
Une raccourci, une espèce de... Oui, quelque chose comme s'il y avait un peu de citron sur une huître, ça c'est raffermi.
Oui.
Vous en voulez la lecture?
Ah mais absolument, mmh. Oui. Faut
je vais
l'ait dans l'oreille. Oui.
Oui.
Et puis vous savez que vous allez être traduit par Violaine Schwartz et par Jean-Bernard Pouy. Chacun va tenter sa traduction, évidemment, avec son affect, son moi profond, sa personnalité.
Un moi profond. Pas très profond.
Comme à mon habitude, totalement désemparé, je pilocrassais comme à mes plus sombres heures. Ou courir, ou ne pas courir. J'avais le creux à l'épicentre. Davantage besoin d'un franc Valbruse que d'une stoufle à la dérobée. Le temps a coagulé. Tarpentir, bien sûr, était une ultime tentation, mon péché mignon. Je réprimais avec peine un bref Juchillon. Il était temps d'espounier.
Eh bien, bonne chance, Violaine Schwartz, Jean-Bernard Pouy. Il est beau ce texte, non,
très
Violaine
beau.
Très, très beau, hein. Mmh. Ça donne envie de faire œuvre de traductrice.
Oui, c'est très, oui, c'est, ouais. C'est très joli. C'est très. Oui.
Nos deux traducteurs, Violaine Schwartz, Jean-Bernard Pouy, ont travaillé, ils ont transpiré un petit peu sur vos mots, Patrice Delbourg, parce que c'était des mots fleuris, des mots ravissants, mais qui ne se laissaient pas prendre comme ça au sens si vite, on pouvait les interpréter de différentes façons.
Mais c'est des mots assez charmants dans l'ensemble.
Oui. Mais comme vous, hein.
Non, qui sont justement un petit peu différents de mon humeur commune.
D'accord. Alors on va les reprendre un par un,
oui. Hein.
Vous nous les donnez, puis on va voir quelles traductions sont les leurs. Alors, il y avait d'abord le verbe espounier, qui est un très joli mot. Violaine Schwartz, pour vous, ça veut dire quoi?
Rentrer à toute allure par les chemins de sangliers ou de traverses en inventant de nouveaux raccourcis.
Oui, ah oui, bon, donc on est bon. Dans la campagne, Jean-Bernard Pouy, vous aussi?
Non, c'est possible. Mais enfin, une autre version, c'est espounier, c'est très sérieux, c'est prendre une décision importante sans s'en remettre au destin.
C'est-à-dire que c'est vraiment son bon vouloir.
Oui, il n'y a pas de chemin de traverse, c'est important.
Ah, tandis qu'avec Violaine, il y a l'idée du chemin de traverse, puisqu'il y a le raccourci, non?
Enfin, il y a l'idée de, oui, d'inventer quelque chose, oui. Rentrer le plus vite possible, quoi.
Et Patrice Delbourg, on est proche, on est loin?
On est très très loin.
Des deux?
Ah, les deux, oui.
Qui étaient déjà très éloignés l'un
très
de l'autre.
Très éloignés, hein. Aussi bien les sangliers,
oui.
Que la prise de décision.
Bon, oui. Bon. On passe au mot suivant, au verbe suivant qui était tarpentir.
Tarpentir. Chanter intérieurement pour se donner du courage. Et chanter, par exemple, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le popotin et font coin-coin.
Les canards, les sangliers, tout, on est au zoo, là.
Oui, pas chez vous.
Tarpentir, c'est très urbain, très, très parisien. C'est partir à pied et au hasard jusqu'à la première station de métro croisée.
Croisée? Ah oui, ah, on croise une station de métro, d'accord. Oui, on part quand même un peu à l'aveuglette, on ne sait pas très bien dans quelle direction.
Là, c'est les chemins de traverse.
On est toujours loin, Patrice.
Oui, quoique chez Violaine, on peut peut-être chanter après avoir tarpenti.
Ah,
peut-être.
Donc c'est l'action de tarpentir mettrait en joie, parce qu'en général, on chante quand on est heureux.
Voilà, une certaine ivresse.
Mm-hmm. On passe à pilocrasser, qui n'est pas bien joli, hein, pilocrasser.
Pilocrasser, c'est prendre un arbre dans ses bras et poser la tête sur son écorce, dans l'espoir de récupérer force et énergie à son contact.
Oh. Je fais ça tout le temps.
C'est vrai.
Ah, oui.
C'est pas comme chez Cabrel, prendre un enfant par les bras, mais c'est prendre
surtout
un arbre.
C'est du teil.
Ah, oh là là, mon Dieu. En plus. En tout cas, c'est pas ça.
Non, pilocrasser, c'est se planter devant un plan de bus
oui.
en tentant de calculer un itinéraire précis.
Ah oui,
ce qui n'est pas toujours très, très facile. Hein.
Ouais, c'est un peu monomaniaque avec vous. Hein.
Oui, absolument.
On est dans le trajet urbain. Quoi.
Ouais.
D'accord. Patrice Delbourg, un petit point de jonction.
Là, on se rapprocherait un peu de Puy.
Oui.
Parce que, disons que la consonance du texte est plus urbaine que pastorale. Là, l'histoire du tronc d'arbre, déjà, ça me... Rien qu'à y penser, ça me donne envie d'avoir un malaise.
Mais vous n'avez jamais fait ça.
Jamais.
Là, les arbres vous donnent une énergie.
Non, ça, alors, rien qu'y penser, ça me... Mais même... Non.
Bon, on passe à la stoufle, Violaine Schwartz.
Ben, pour moi, c'est une décoction espagnole illicite et fortement alcoolisé de crevettes roses de Blanès.
Ah, oula. Ah bon ? Et c'est bon ?
J'ai pas le droit de dire si j'en ai goûté ou pas.
Et moi, j'ai pas le droit, je suis allergique aux crevettes.
Ah bon, alors, vous ne goûterez jamais la stoufle. Jean-Bernard Puy, stoufle ou pas stoufle ? Ça se voit ?
Non.
Non.
C'est une petite ligne de véhicule, un bus ou autre, peu fréquentée, ne fonctionnant qu'à certaines heures. Comme ces espèces de trains en forme de bus qu'il y a dans Paris qui montent à
Montmartre.
À Montmartre.
Ah, ouais.
Versailles aussi, il y en a, je déteste.
C'est une stoufle, moi aussi je vais ça.
Mais c'est plus pour les touristes alors. Non.
Oui, mais enfin, on peut être touriste dans sa propre ville, François.
Mais bien sûr, Jean-Bernard. Absolument.
Alors là, le balancier va de nouveau vers Violaine.
Ah.
Car on peut trouver une stoufle dans son assiette, effectivement.
Ah. Et le Valbruse, alors moi, je trouvais que ça avait un nom d'alcool. On a déjà eu la boisson avec Violaine et la stoufle pour elle. Mais c'est quoi, Valbruse ?
Le Valbruse, c'est un joint hallucinogène fabriqué à base de ronces et de prunelier sauvage ayant des vertus aphrodisiaques.
Après avoir embrassé l'arbre très fort, on se fait un petit Valbruse et tout va bien. Jean-Bernard Puy.
Non, le Valbruse, c'est un trajet direct et rectiligne, sans trop d'arrêt, genre RER.
Ah voilà.
Ah, il ne faut pas plaisanter avec le vocabulaire.
Non, c'est bien. Alors, Patrice Delbourg, vous qui êtes plutôt un homme de la voiture
oui,
que de l'autobus ou du RER.
Un homme du béton plutôt que de la chlorophylle. Mais je suis quand même assez loin du registre de Jean-Bernard.
Ouais.
Quant à... Là, je ne peux pas souscrire à la définition de Violaine non plus.
Non, du tout.
C'est autre chose.
Pas du tout. Et alors, on va passer au juchillon. Un juchillon, c'est quoi, Violaine Schwartz ?
Un juchillon, c'est un bâillement inopiné avalant une note de musique entre deux triolets.
On peut en entendre un.
C'est ce que faisait Aragon.
C'est pendant qu'on chante, évidemment. C'est un bâillement pendant qu'on chante. Et voilà, il faut chanter.
Ah, et un petit coup de hockey en même temps. C'est très alcoolisé et très hallucinogène.
Ça ne m'étonne pas d'elle, oui. Le juchillon, c'est le fait de pointer sur un plan ou une carte, ce que tout le monde a fait quand il était jeune, son doigt au hasard pour choisir une destination.
Ah oui.
C'est un juchillon.
Ah, le hasard me guidera quelque part.
Ouais.
C'est comme quand on joue au tourisme aléatoire.
Voilà.
D'accord. Petit rapport, Juchillon ?
Aucun.
Aucun. Alors,
strictement aucun.
Avant de savoir ce qu'a voulu dire Patrice Delbourg avec ces mots, j'aimerais bien écouter la traduction, vos deux traductions du texte, de l'œuvre de Patrice Delbourg.
L'œuvre est un mot un peu fort, mais j'y souscris finalement.
Violaine Schwartz.
Comme à mon habitude, totalement désemparée, je pris un arbre dans mes bras et je posai la tête sur son écorce dans l'espoir de récupérer force et énergie à son contact. Où courir, où ne pas courir ? J'avais le creux à l'épicentre. Davantage besoin d'un joint hallucinogène fabriqué à base de ronces et de prunelliers sauvages ayant des vertus aphrodisiaques que d'une décoction espagnole illicite et fortement alcoolisée de crevettes roses de Blanes à la dérobée. Le temps coagulé. Chanter intérieurement pour se donner du courage, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le popotin et font coin-coin. Bien sûr, était une ultime tentation, mon péché mignon. Je réprimais avec peine un bref bâillement inopiné, avalant une note de musique entre deux triolets. Il était temps de rentrer à toute allure par les chemins de sangliers en inventant de nouveaux raccourcis.
C'est une jolie aventure, je trouve. Mmh. Hein.
Ah oui.
On l'imagine très bien.
On sent la sauvageonne.
Exactement.
Qui gambade dans la luzerne.
Non, ça m'émeut.
Ah oui. Ah, n'est pas loin voyez, encore. Quoi.
Ça m'émeut.
Jean-Bernard Pouy, alors vous, le citadin, vous avez donné une traduction tout à fait différente.
Très quenot.
Ah.
En fait, oui.
On va voir.
Comme à mon habitude, totalement désemparé, je me plantais devant un plan de bus en tentant de calculer et de choisir un itinéraire précis. Où courir, ou ne pas courir. J'avais le creux à l'épicentre. Davantage besoin d'une ligne directe et rectiligne, sans trop d'arrêt, qu'une petite ligne désuète et ne fonctionnant à la dérobée que certaines heures. Le temps coagulait. Partir à pied au hasard jusqu'à la première station de métro rencontrée était bien sûr une ultime tentation. Mon péché mignon. Je réprimais avec peine l'envie de pointer mon doigt sur le plan en fermant mes yeux. Il était temps de prendre une décision importante sans s'en remettre au destin.
Il y a une belle gravité, hein, je trouve.
C'est l'exercice de Stèle.
Alors moi, j'aime beaucoup la phrase qui n'a pas été traduite parce qu'elle est du pur Delbourg, c'est « J'avais le creux à l'épicentre
». Et c'est le nœud du texte, si j'ose dire.
Ah, je l'ai senti, je l'ai senti. Le creux à l'épicentre. On peut avoir une idée de votre traduction, de que veulent dire ces mots, espougnier, par exemple.
Espougnier, alors, c'est un mot comme ça qui vous paraît charmant et qui est insupportable, parce que ça recouvre quelque chose d'insupportable. C'est donc faire ce signe ridicule, mais irrépressible, d'un tremblement du poignet à l'adresse du garçon pour lui faire signe que l'on désire l'addition.
Photo, là, vous n'avez rien entendu, mais les yeux étaient écarquillés et le petit poignet bougeait dans tous les sens. Oui. Ah oui, 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 donc c'est désagréable.
C'est très désagréable.
On siffle quelqu'un.
Mais on
ne
peut pas s'en empêcher. Il y a ça, il y en a d'autres aussi que je ne peux pas faire à l'antenne. Mais bon.
Tarpentir.
Tarpentir, c'est boire toute la carafe de vin ou la demi-bouteille avant de dire qu'elle est bouchonnée pour la faire changer par le garçon.
Tu as déjà dit ici que tu détestais les demi-bouteilles. Hein.
C'est exact. Oui. Mais on ne parle pas d'émissions précédentes.
À très fin observateur. Et quelle mémoire, Jean-Bernard Pouy. C'est quand on lui offre, quoi. C'est quand c'est sur la maison.
Oui, c'est sur la maison.
Ouais, pilocrassé.
Pilocrassé, c'est rester des heures devant la carte du restaurant sans se décider à choisir un plat.
Alors ça m'arrive tout le temps. Moi, je pilocrasse. Mais oh là là.
En face de vous, l'autre, c'est insupportable.
C'est insupportable.
C'est pas loin de ma version. Se mettre devant un plan de bus et essayer de trouver un itinéraire. C'est un peu ça. Bon.
Non, c'est pas loin. Oui, je sais pas si ça agace autant. Les gens qui sont à côté de vous, que l'hésitation devant le menu du jour ou...
Procrastination cadastrale, c'est ça.
Ouais. On voit à peu près où il est, hein. Il est au resto, j'ai l'impression. Et alors la stouffe, là...
La stouffe, dans la nouvelle cuisine française, c'est le bref morceau de viande que l'on trouve par hasard sous une feuille de laitue.
Le bref morceau de viande.
C'est ça la stouffe, là.
Ah oui, d'accord, c'est dans les petits restos un peu chichiteux.
Un peu chichiteux, oui, un petit peu boboïsant.
Le Valbruse.
Et bien là, c'est un peu le pendant. C'est le râpe de légumes sans supplément que l'on sert seulement aux habitués.
Ah ben ça, c'est quand même sympathique. Hein,
c'est rarissime.
Un petit Valbruse, oui.
Oui, c'est-à-dire, tiens, Monsieur Archambault à la 7, allez, un râpe de lentilles, sans qu'il demande. Ça, c'est...
Un cadeau, quoi.
Ouais.
Ah, c'est joli,
c'est
rarissime,
hein, ça, le Valbruse.
Et un juchillon ?
Alors le juchillon, c'est ce petit moment d'assoupissement post-prandial dû à une trop longue station à table. Une espèce de...
Ah ouais, on s'assoupit voilà. Sur l'addition.
Quand l'addition arrive, on se reprend.
Et on baille, peut-être.
On baille, oui.
On baille comme chez Violaine, oui.
On baille, on desserre sa ceinture et on étreint un tronc. On étreint une bouteille.
En sniffant quelque chose, en plus. Absolument. On écoute votre histoire et on va voir l'importance de ce creux à l'épicentre.
Oui. Comme à mon habitude, totalement désemparé, je restais 2 heures devant la carte du restaurant avant de me décider à choisir un plat, comme à mes plus sombres heures. Ou courir, ou ne pas courir. J'avais le creux à l'épicentre. Davantage besoin d'un franc râpe de légumes sans supplément, auquel seuls les habitués ont droit, que d'un bref morceau de viande que l'on découvre par hasard sous une feuille de laitue à la dérobée. Le temps coagulait. Boire toute la carafe avant de dire qu'elle était bouchonnée et la faire changer par le garçon était bien sûr une ultime tentation. Mon péché mignon. Je réprimais avec peine un bref moment d'assoupissement post-prandial dû à une trop longue station à table. Il était temps de faire ce signe ridicule mais irrépressible du poignet qui tremble pour demander l'addition.
C'est un joli texte aussi, mais finalement ces mots sont extrêmement utiles parce qu'ils peuvent avoir 3 significations. Ils peuvent nous emmener à la campagne, au resto ou dans le métro. Bon, tout le monde n'aime pas le métro,
le bus.
C'est vrai que ce sont 3 univers et des mots importants, des mots assez magiques. Hein.
Dans le prochain resto où je vais commander un franc Valbruse. Et une stoufle. La stoufle, ça fait un peu belge quand même. Pour voir un peu la réaction du serveur. Stoufle, ça fait un peu le schtoumpf. À Bruxelles, le schtoumpf, c'est bon.
C'est quoi, hein ?
C'est une purée de choux avec des pommes de terre.
Mais moi, comme je vais dans des restaurants végétariens, si je découvrais une stoufle sous ma laitue, je m'évanouirais.
Mais rien que devant une enseigne de restaurant et végétarien, moi, je m'évanouis.
Des papouilles dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant 1 an, à réécouter directement sur la page des papous du 16 novembre pendant 1000 jours, page sur laquelle vous pouvez écrire vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires et puis direction l'avis du club pour tout savoir sur les 30 ans des papous dans la tête à fêter en public le dimanche 30 novembre à la Maison de la Radio. Dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Perrault pour Tire ta langue. Au revoir, passez un très bel après-midi sur France Culture. Tiens,